renouveau du procureur Eivart remonte la large allée de la Zotheus, comme on se plaît à l'appeler, la maison de fous des Verts. À l'annonce de son arrivée, le directeur de l'établissement, Henri Van Leeuwen, se précipite sur le perron. Il salue son visiteur. « Oh, c'est charmant de venir nous voir, monsieur le procureur. » Autant de politesse d'usage qui, pour tout dire, agace le magistrat. Car il a mal dormi, Théodore Eivart, préoccupé par les faits de maltraitance dont il a eu connaissance. Alors, il n'y va pas par quatre chemins et il demande à se faire conduire aux cellules. La fille du directeur l'accompagne. Il se rend au sous-sol dans un silence de plomb. Élise n'a pas l'aisance de son père pour les tentatives de diversion. Il avance dans les allées sales, obscures. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu que ça pue! C'est une odeur d'humidité superposée à celle de la viande morte! Se dit le procureur au moment même où il aperçoit au fond d'une cellule un homme recroquevillé en position fœtale. Le détenu grelotte, Jean. Il est couvert de deux doigts de crasse. Eivart l'interpelle. « Depuis combien de temps êtes-vous là, cher monsieur ?»« Depuis 7 semaines, » répond le pensionnaire. « 7 semaines. » Le gardien planté derrière, droit comme un piquet, démonte la tête, mais le fou de justifier lui-même sa punition. « Quand je suis entré ici en cellule, j'étais bien méchant, car j'ai tué 2 hommes. » Le procureur ne le croit pas. Après tout, c'est un fou, cet homme qui gît dans ses excréments. Et s'il y avait eu un double homicide ici, à la maison de santé des Verts, la direction de l'établissement aurait forcément porté les faits à l'attention de la justice, non? Mais la lettre anonyme a semé le doute. Eivart fait appeler le gardien responsable de l'aliéné et lui demande la raison de son enfermement. « Monsieur Laurent Dumoulin a tué 2 hommes, » confirme le geôlier. Le procureur est sonné. C'est bien plus grave que tout ce qu'il avait pu imaginer. Il y aurait des meurtres à la maison de santé des Verts. Aussitôt rentré de cette visite, Eivart lance donc une enquête. Et le 14 décembre 1871, le lendemain donc, le voilà de retour dans l'institution asilaire avec Camille Skeven, juge d'instruction. Camille Skeven, lui aussi, est tout récemment entré en fonction. Et cette affaire, immédiatement médiatisée, pour lui, l'occasion d'affirmer sa qualité devant le public et devant sa hiérarchie. Il va tout donner pour faire éclater la vérité. Les 2 hommes de loi commencent les interrogatoires. Et voici ce qu'ils vont apprendre. Laurent Dumoulin, l'aliéné que Théodore Eivart a découvert en cellule, a été colloqué à Evere la première fois le 14 septembre 1869 sur ordre de la police bruxelloise. C'est un tapissier de 27 ans qui est, selon les registres d'admission, pris d'une folie des grandeurs, doublée de quelques excès alcooliques. Dès son arrivée dans l'établissement, il se présente comme le comte de Berry, un titre qu'il aurait reçu de Dieu, avec qui il est en conversation permanente. Vénard. Il affirme voir le diable aussi, dans tous les coins du quartier. Un médecin ausculte le nouveau pensionnaire et confirme la nécessité d'internement. Il est, dit-il, atteint de manie avec hallucination qui le rend dangereux pour lui-même et pour autrui. En cause, de récents chagrins d'amour. Bon, le mal devrait s'effacer sous peu. Ne promettons pas que le temps guérit toutes les blessures du cœur. Laurent Dumoulin est gardé par prudence, sous une observation attentive et constante. Et rapidement, comme prévu, il va mieux. Il est si calme et docile qu'il est invité à tapisser plusieurs pièces de la maison du directeur de l'établissement. On le verra plus tard. À la maison des Verts, on n'hésite pas à profiter des aliénés. 3 mois après son arrivée, Laurent Dumoulin est donc libéré. Le médecin estime qu'il a retrouvé l'usage de ses facultés intellectuelles. Il n'est plus question du comte de Berry, ni de Dieu, ni même du diable. Nous sommes le 21 décembre 1869. Laurent Dumoulin va passer Noël chez lui. Il va même passer 2 ans chez lui, avant de retourner à l'asile. Car le 22 octobre 1871, rebelote, il court d'un estaminet à l'autre. criant à qui veut l'entendre qu'il est l'envoyé de Dieu. Il entame un pèlerinage autour de l'église de Laeken et se prosterne à genoux, les bras étendus. À minuit, on le voit s'engouffrer à la caserne pour s'engager comme soldat, parce que, hurle-t-il, la Belgique est menacée par l'international et entourée d'ennemis. La police est appelée en renfort. L'arrestation se fait sans mal. À ce moment, Laurent Demoulin a sur lui une statue du Christ et une autre de la Sainte Vierge, toutes deux hautes de plus de 20 cm. Elles sont les témoins de son aliénation mentale. Dumoulin est placé en cellule au commissariat de Laeken. Le médecin qui vient le voir juge la colocation nécessaire dans son propre intérêt, mais aussi pour la sûreté publique. Il écrit dans son avis d'internement « Si la monomanie paraît surtout religieuse, elle peut, d'un moment à l'autre, devenir furieuse. » Laurent Demoulin est emmené à Evere en voiture. Il est menotté au poignet, ses jambes sont sanglées vu son état de dangerosité supposé. Une fois sur place, les deux agents de police confient le patient à deux gardes. Et ils s'en vont. Et écoutez bien, c'est véridique. Et ils s'en vont boire un verre de vin avec la fille du directeur, Élise, celle qui fut si peu loquace avec le magistrat. Les policiers ont oublié le certificat nécessaire à l'admission de Laurent Dumoulin. Ils promettent de l'envoyer deux jours plus tard. Ce sera trop tard. Normalement, c'est la loi qui le prescrit. Laurent Dumoulin devrait immédiatement rencontrer le médecin de l'établissement. Mais il ne voit aucun aliéniste. Contre toute logique, car je vous le rappelle, un avertissement a été donné concernant sa dangerosité potentielle, le patient est placé dans le grand dortoir du quartier des hommes, là où séjournent déjà 18 pensionnaires. Parmi ses compagnons de chambrée se trouve Philippe Graze. Philippe est arrivé 4 ans plus tôt. Il a 55 ans. C'est un épileptique sujet à des accès de fureur qui peuvent devenir dangereux compte tenu de sa force. Il y a aussi Jos De Volder, depuis près de 2 ans diagnostiqué monomaniaque, qui est aussi l'objet d'accès de fureur au cours desquels il lui est déjà arrivé de s'en prendre à d'autres aliénés ou à un gardien. Une fois par exemple, après avoir épluché les patates, il a donné un coup de couteau à son geôlier. Ces hommes ne sont pas internés pour rien. L'ambiance est donc électrique dans ce dortoir. Peu étonnant dès lors qu'un drame survienne dès la deuxième nuit qui passe Laurent Dumoulin. La nuit du 23 au 24 octobre 1871. Le nouveau pensionnaire se lève vers 3h du matin. Il est pris d'une envie subite de réciter une prière à haute voix. Puis il se recouche. Mais il a réveillé Jos De Volder, qui se lève à son tour. Dumoulin sort à nouveau de son lit. Il s'habille. Il ordonne à son compagnon de chambrée de se recoucher. Comme son compagnon n'obéit pas, Dumoulin lui décoche une taloche. Voilà alors que Philippe Graze s'en mêle et s'approche de Dumoulin, lequel s'élance sur lui. Les deux hommes tombent à terre. Graze mord le pouce de Dumoulin, tente de saisir ses testicules, mais c'est Dumoulin qui est le plus rapide et qui lui mord les testicules. Il le rue ensuite de coups sur la tête tout en criant « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lâchez-moi !» Une fois débarrassé de son assaillant, Dumoulin se jette sur De Volder, qui regardait la scène en jappant et lui réserve le même traitement. Il lui écrase les testicules et lui fracasse la tête. Cette scène dure plusieurs heures selon les témoins. Les autres aliénés, trop effrayés, ne tentent rien. Ils appellent au secours par la fenêtre, mais rien ne se passe. En face d'eux, il n'y a que le silence des arbres du parc. Quand enfin le gardien se pointe au petit matin, il trouve les deux victimes couvertes d'ecchymoses et de plaies. Philippe Graze est décédé. Jos De Volder, quant à lui, a du mal à respirer. Il a l'oreille déchirée, des contusions autour des deux yeux, des trous sur le derrière de la tête, des taches bleues sur le ventre et les parties génitales décrochées. Il succombera quelques jours plus tard. Laurent Dumoulin profite de l'agitation provoquée par la découverte des corps pour s'enfuir. Il dévale les escaliers, se lance dans l'allée et passe le portail ouvert par des ouvriers qui entament leur journée de travail dans les extensions du bâtiment principal. Dumoulin est rattrapé à Dighem, il est reconduit à l'asile des Verts. Et puisqu'il faut le punir, il est séquestré en cellule. Il y reste jusqu'à la visite surprise du procureur Eivart, 7 semaines plus tard. Il n'est examiné par un médecin qu'à 2 reprises pendant tout ce temps. Il souffre pourtant de fièvre et de dysenterie, vu le régime de froid et de faim associé à cet enfermement. Pendant tout ce temps aussi, le directeur de l'établissement, Henri Van Leeuwe, décide d'étouffer l'affaire. Il fait falsifier les registres de l'établissement. Au sujet du décès de Jos de Wolder, par exemple, le registre médical renseigne sobrement « 29 octobre, meurt de congestion foudroyante des poumons à la suite d'un accès de colère et d'une querelle qu'il a eue avec un des compagnons. » La même version de la mort du pensionnaire est donnée à ses proches. Le directeur profite par ailleurs de sa fonction de secrétaire communal pour se faire délivrer les permis d'inhumation nécessaires en toute discrétion. Les 2 hommes assassinés sont enterrés sans que personne ne se pose de questions. En fait, sans la rencontre du procureur Eivart et du fou du moulin dans cette cellule froide et obscure, ce 13 décembre 1871, le double homicide de la maison de santé des Verts serait resté secret. Par un modèle du genre, depuis quelques décennies, le fou est envisagé comme un malade à soigner et non plus uniquement comme un fauteur de troubles à maintenir à l'écart de la société. En 1850, la Belgique a adopté sa première loi sur le régime des aliénés, énonçant 3 objectifs. Le premier, soigner les aliénés curables. Le deuxième, préserver la liberté individuelle en luttant contre les internements arbitraires. Et troisième, non sans contradiction, protéger l'ordre public par la colocation des fous dans des asiles, lesquels sont soumis à une surveillance rapprochée. C'est surtout sur ce point, le contrôle étroit des établissements asilaires, que l'affaire des Verts révélera d'importantes lacunes. Et je rappelle aussi, quand on parle de soigner les fous en ce 19e siècle, nous sommes encore bien loin des traitements actuels. Bain chaud, tiède et froid, douche, pédiluve dans des préparations médicamenteuses à base de farine de moutarde, séton, donc drap placé sous la peau pour faire sortir par 2 orifices différents les sécrétions sanglantes, saignée, vésicatoire, donc médicament aux propriétés révulsives qui produit des vésicules sur la peau, maintien de plaies ouvertes, friction sèche ou aromatisée, lotion d'eau de vie camphrée, sangsue, et j'en passe. Ces traitements-là sont ceux d'un autre temps. Après avoir ouvert ses portes en 1854, d'une superbe réputation. L'asile est planté dans un parc verdoyant, au centre du village, parce que oui, au milieu du 19e siècle, Evers est encore une commune rurale, la pleine campagne. Et cet établissement des asiles dans les zones rurales est alors vu comme un facteur essentiel du traitement des aliénés. Ceux-ci, ainsi préservés de l'influence, jugée néfaste, de la nervosité des centres urbains, y profitent d'un air pur considéré par les théories hygiénistes ambiantes comme salutaire. L'établissement des Verts se distingue par ailleurs par la situation et l'étendue de ses jardins, où les fous sont libres de circuler, et par la présence d'un luxuriant potager, qui témoigne des bienfaits thérapeutiques reconnus au travail manuel. La propriété est spacieuse, dirigée par un directeur bienveillant, jusqu'en 1863. En 1863, suite au décès du directeur, l'asile est racheté par Henri Van Leeuwe, un notable local. Henri Van Leeuwe est un entrepreneur. Le sort des aliénés le préoccupe fort peu. Et quand sa femme décède, en 1865, il se met à passer la majeure partie de son temps dans des estaminets en compagnie de diverses maîtresses. Il épuise tous les plaisirs à sa portée. Henri Van Leeuwe est un notable, mais c'est surtout un ivrogne et un dévergondé. on le voit régulièrement remonter l'allée de l'asile à une heure avancée de la nuit, dans un état d'ivresse très prononcé. Sous sa direction, l'asile des Verts sombre rapidement. Les pensionnaires sont acceptés en surnombre et cette surpopulation entraîne une promiscuité et des travaux permanents. Des extensions sont érigées successivement, sans aucun souci d'harmonie architecturale. Mais cela passe encore. Le problème, c'est surtout le désordre, l'insalubrité. À Evere, tout est triste. Les préaux, les réfectoires, les dortoirs sont entourés de murs blanchis à la chaux. Le potager, mal cultivé, est jonché d'instruments de culture abandonnés et le jardin anglais, mal entretenu, est envahi de morceaux d'arbres et de pièces de bois. Mais il y a pire. Ci et là, des carreaux sont cassés, laissant s'engouffrer le froid et de généreuses bourrasques de vent. Les moyens de chauffage sont limités. Le mode de ventilation est inadapté. Un égout est déficient. Et il manque d'un bon système d'évacuation des eaux ménagères et usées. Les pensionnaires reçoivent des vêtements en quantité insuffisante. Autrement dit, les internés ont froid et subissent des odeurs méphitiques. Ils s'en plaignent, mais rien ne change. L'un d'eux raconte ainsi. Dans la cellule où je me trouvais, il faisait tellement froid que l'eau gelait dans mon pot. Comme ma cellule était ouverte par le haut, la neige tombait à l'intérieur. C'est sidérant. Dans le dortoir, dit des gâteux, les lits sont composés de paillasses et ces couchettes sont pénétrées d'urine et de matière fécale car, selon les gardiens, le matériel de l'établissement n'est pas suffisant pour renouveler les couchages. On ne les lave jamais et il est impossible de les sécher dans la salle parce qu'il n'y a pas de feu. Écoutez cet autre pensionnaire raconter. Dans l'établissement, il faisait fort sale. Ainsi, on m'a laissé pendant 6 mois avec les mêmes draps de lit. J'ai vu dans l'établissement de malheureux indigents dont les chaussettes étaient remplies de punaises. Moi-même, j'ai eu de la vermine sur la tête. Ajoutez à cela que sur le plan médical, les patients sont très peu suivis. Quelle ironie pour une maison de santé. Les médecins n'assurent pas les visites quotidiennes prescrites par la loi. Il y a même des quartiers dans lesquels ils ne passent jamais ou qu'exceptionnellement. Dans les quartiers des agités et des semi-agités, ceux-là même qui ont le plus besoin de soins et d'attention. L'état lamentable dans lequel se trouve l'asile des Verts s'explique entre autres par le manque de moyens qu'il reçoit des communes. Normalement, chaque commune paie une pension pour ses indigents accueillis par l'établissement. Mais certaines enchaînent des retards et le montant de la pension est de toute façon dérisoire. 70 centimes par pensionnaire. Il n'y a même pas de quoi leur servir 3 repas par jour. La direction cherche donc par tous les moyens à faire des économies drastiques. Et c'est ainsi, tenez-vous bien, qu'elle se met à employer certains patients comme gardiens, les estimant guéris. Elle ne les relâche pas, mais les élève au rang de geôlier pour un salaire de misère. On s'étonne moins maintenant que la situation dégénère souvent. Il y a parmi les gardiens de véritables bourreaux, des hommes violents que l'idée de cogner galvanise, qui sont électrisés par le petit pouvoir que leur confère leur fonction, eux qui subissent depuis l'enfance la médiocrité de leur vie. Prenons Arnold Slicks, par exemple. C'est lui qui était responsable du dortoir des hommes la nuit du double meurtre commis par le fou Laurent Dumoulin. Eh bien, Arnold Slicks ne se lève jamais pour intervenir quand des rixes éclatent la nuit. Il se contente le matin venu de donner des coups de bâton à ceux qui ont troublé son sommeil. En plus de sa canne de bois, il fait souvent usage d'un nerf de bœuf et d'une aiguille de cordonnier pour tourmenter les aliénés. Il lui est arrivé de mettre le nez des pensionnaires gâteux dans leurs ordures lorsqu'ils avaient été incontinents et de les traîner ensuite par les cheveux dans les escaliers. Les cas de maltraitance sont généralisés à Evere, au-delà du gardien Slicks. Quand l'enquête récoltera les témoignages, on apprendra que certains fous étaient enfermés jusqu'à 7 jours de suite en cellule en guise de représailles ou que certains internés ont été privés de nourriture jusqu'à 3 jours consécutifs. on apprendra qu'une idiote a été violée, qu'une autre de 75 ans a été terrassée de coups de poing, qu'elle en est morte. Oui, parce que le sort des femmes est pire encore que celui des hommes et bien mieux camouflé. Tout le monde s'en fout des folles. À Evere, des aliénées sont mortes de froid après avoir eu les pieds pourris et les chairs défaites sans que personne ne s'enquière des raisons de leur décès. Bref, des choses infâmes et dégoûtantes se sont passées dans cette maison de fous. Alors évidemment, dans ces circonstances, l'asile des Verts a bien attiré l'attention de la justice avant le double homicide de décembre 1871. Théodore Evart en particulier, le procureur du roi, l'avait carrément dans le collimateur depuis son entrée en fonction. Un an déjà qu'il multiplie les rappels à l'ordre, mais la direction excelle dans l'art de la dissimulation. On l'a vu dans le cas de Laurent Dumoulin. Elle triche, elle falsifie les registres médicaux et de séquestration. Elle cache les décès problématiques. Elle met même en place une parade pour tromper la vigilance des autorités de contrôle. Écoutez bien, parce que là, c'est difficile à croire. Chaque jour, des matelas sont déposés sur les paillasses des aliénés. Chaque soir, ils sont retirés et entassés sur le côté. Ils ne sont là que pour berner d'éventuels visiteurs extérieurs, mais ils ne profitent jamais aux pensionnaires. Cette façon d'agir saisissante témoigne de la conscience qu'a la direction de ne pas répondre aux exigences légales et morales, ni même aux plus élémentaires règles d'hygiène. Elle prouve que les mauvais traitements sont volontaires